T'es sûr que tu...
Non, il faut vraiment que j'y aille. Par contre, je vais prendre le café, hein.
Ah.
Merci. Merci beaucoup. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était?
Benoît Lagane,
Eric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 20.
11 septembre. La transition créative.
Unité 55, alarme incendie déclenchée au 742 104.
Il a pas encore dit 742 quand même.
Oh, et si.
Demain soir, je prends mon fusil de chasse et je m'installe sur l'un des toits juste en face.
J'apporterai les munitions.
Jimmy ! Hey Jimmy ! Jimmy ! Il faut y aller.
Ouais, j'arrive.
Dans l'épisode précédent, nous avons consacré notre émission aux séries fantastiques et de science-fiction produites tout au long des années 90 jusqu'au début des années 2000. Séries où transparaît entre autres une lourde ambiance fin du monde. Alors parmi les productions abordées, nous nous sommes arrêtés un instant sur les séries de Chris Carter, X-Files, Millennium ou encore The Lone Gunman. Cette série qui, rappelez-vous, a imaginé dans son premier épisode diffusé au printemps 2001 une tentative d'attentat aérien sur les tours jumelles. À ce propos, aujourd'hui, nous parlerons d'un choc comme l'histoire américaine en a connu peu et qui de fait va transformer ou marquer indéniablement les productions télé contemporaines. Vous l'aurez compris, il s'agit du 11 septembre 2001.
Un peu comme l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 63, tout le monde se souvient de ce qu'il était en train de faire ce 11 septembre, un événement rare, tragique, qui a influencé indéniablement les différentes formes de création du moment, alors le cinéma, le récit littéraire, mais les productions télévisuelles ne font pas exception. Alors, peut-on comparer le choc de la mort de JFK et celui de la tragédie du 11 septembre? Quelques éléments de réponse de la part de Jean-Baptiste Torret, hein, Jean-Baptiste Torret qui est l'auteur notamment de 26 secondes, L'Amérique éclaboussée aux éditions Rouge Carmin, un ouvrage lumineux qui a fait le lien entre les deux événements qui ont secoué l'Amérique.
Kennedy, c'est un moment charnière pour... c'est plus qu'un moment charnière, Kennedy. Je pense que c'est pas Don DeLillo ou alors Frederick Jameson, qui est un des philosophes post-modernes les plus importants américains aujourd'hui, qui avait écrit, ce sont les 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle et l'Amérique. Donc, il n'y a pas, à côté du reste, l'assassinat de Kennedy qui pourrait avoir une influence autre, c'est que l'Amérique change de visage, se disloque, littéralement, dans le 63. Alors, parlons de la série télé, parlons des films, de l'humeur générale, je veux dire, aussi bien chez le coiffeur que dans Mission Impossible, évidemment que ça infuse partout. C'est-à-dire que c'est un événement qui a une telle ampleur qu'on peut pas, à la limite, le mettre à côté d'autres. Je pense que c'est le début de l'entonnoir. Alors après viendront la guerre du Vietnam et le mensonge, les papiers d'Ellensberg, viendront les assassinats multiples, viendront enfin, un nombre d'événements évidemment incalculables. Mais on pourrait dire que l'événement originel, matrice, quoi, c'est ce qui fait que tout va basculer, évidemment, c'est l'assassinat de Kennedy. Donc l'assassinat de Kennedy est évidemment partout. Autant le 11 septembre, on pourrait presque dire qu'on s'était préparé, on s'y avait préparé d'ailleurs, mais on s'était quand même un peu préparé visuellement à ce qu'on a vu. Non seulement la télé est préparée, mais même on pourrait dire que le cinéma et l'esprit, l'œil du spectateur, complètement saturé, bombardé d'images de toutes sortes, est préparé évidemment à cette image d'un film catastrophe, on l'a tellement noté à l'époque, avec la dimension presque irréelle de la réalité. Hein, c'est quelque chose de très très frappant, le sentiment de voir une image en boucle, finalement dont on n'arrive pas à épuiser le sens, parce que finalement il faut lui faire dégorger ce qu'elle contient de réel, alors qu'on a l'impression que c'est une image déjà de fiction. Donc on peut dire que là évidemment le cinéma et les images avaient de l'avance sur le 11 septembre, et puis après l'époque n'a strictement évidemment plus rien à voir, à la fois en termes de vivacité de la série télé, Internet, enfin je sais, les vidéastes, enfin il y a une volonté immédiatement de corriger l'image par le 11 septembre. Et d'ailleurs c'est même un effet de prolifération, de profusion qui arrive après le 11 septembre 2001. Dans le cas de l'assassinat Kennedy, pas du tout. C'est que on peut dire que l'événement infuse de façon extrêmement discrète par la bande, on pourrait dire, la fiction et les films américains des années 60, mais c'est surtout à partir de 67-68 que ça va devenir. Il y a un critique américain qui avait écrit, il disait qu'entre 65 et 75, tous les films américains réalisés donc aux États-Unis parlaient de la guerre du Vietnam. Et pourtant, il n'y a pas 1% qui montrait très concrètement des gens partir au Vietnam, des scènes de combat ou peu importe. 63, la CIA Kennedy, c'est l'événement fondateur à la fois de l'Amérique moderne et du cinéma américain, on pourrait dire moderne.
Alors dans les fictions américaines, si on doit parler de président en danger, voire assassiné, si on doit parler de terrorisme et d'Amérique en danger, la série 24, hein, 24 heures chrono en français, c'est un objet idéal, construite sur le principe assez stressant, dans le bon sens du terme, du temps réel, c'est-à-dire que une heure de fiction égale une heure de temps dans la vie de cette fiction. La série de Sernow et Gordon joue au prophète de l'Amérique. Alors limite sur le fond durant ses premières saisons, c'est une série qui n'en est pas moins passionnante sur la forme.
We have a domestic terrorist alert.
How serious?
Very.
Has Lynn been informed?
Yes, she's here.
Who else?
There are representatives from all branches of the military, some FBI and CIA. What I'm about to tell you, Mr. President, is triple sourced. And while crucial details are still unknown, we believe this intel to have extremely high credibility.
Go on.
There's a nuclear device under terrorist control. It's on U.S. soil.
My God.
Where?
Los Angeles. It gets worse. This bomb is going to go off today.
Après le choc du 11 septembre 2001, il est difficile pour les scénaristes d'intégrer tout de suite l'événement dans les scripts. Et si la question ne se pose pas vraiment dans beaucoup de séries, il est difficile pour les séries situées à New York de ne pas prendre en compte l'événement. Parmi les séries produites à l'époque, une série majeure est obligée de retravailler et tourner de nouvelles scènes pour être le plus raccord possible avec cette actualité. Cette série s'appelle Third Watch en anglais. Elle est traduite judicieusement en France par New York 911. Elle est diffusée entre septembre 99 et mai 2005 et elle raconte dans le même esprit qu'Urgence, parce que la série est produite par la même équipe, le quotidien des ambulanciers, des pompiers et des policiers en tenue de New York. En gros, tous ceux que l'on appelle en urgence en composant sur son téléphone le fameux numéro 911.
Le 911.
Voilà, parfait. Le jour du 11 septembre, donc les premiers à être intervenus sont justement ces trois équipes d'urgence, ambulanciers, pompiers et flics. Alors vous imaginez bien que John Wells et ses équipes ne pouvaient pas ne pas changer et reconstruire les premiers épisodes de leur saison 3 autour de l'événement. Et le premier épisode de cette saison sera en fait un documentaire consacré à la vraie vie des personnages donc réels dont ils se sont inspirés pour raconter leur histoire. Et dès le deuxième épisode, diffusé le 22 octobre 2001, soit un mois et 11 jours tout juste après l'attentat, cet épisode relate la journée qui précède le fameux 11 septembre. Alors, New York 911 était déjà plutôt une belle réussite. Elle gagnera en profondeur en intégrant cet événement et surtout en transformant la psychologie de certains de ses personnages pour se rapprocher au plus près du choc psychologique qu'ont vécu les New-Yorkais dans les mois et les années qui ont suivi l'événement.
Allô ?
Oh Kim, c'est affreux ça.
Maman. Attends, moins vite. Non, je comprends pas ce que...
Il doit sûrement y avoir des centaines de morts.
Quoi ?
Tu regardes pas la télé ?
Non, elle est pas allumée. Attends.
Oh, c'est épouvantable.
Maman, tu vas bien ?
T'inquiète pas, surtout, ça ira. On a largement le temps.
T'es très bien. Tu te sens bien ?
Nerveux.
Oui, c'est vrai que je mette une fleur.
Mais si, bien sûr.
Boutonnière ne laissera jamais passer la tige d'une fleur.
Faudrait mettre une épingle. On devrait trouver ça ici. Je sais pas où, cet endroit est immense.
C'est quoi cet attroupement ?
Il y a peut-être quelqu'un qui a touché le gros lot.
Dans un bar ?
Alors dans la tourmente du moment, Aaron Sorkin, le créateur de The West Wing, choisit lui aussi de bouleverser le début de sa saison avec un épisode complètement hors norme. C'est un épisode finalement en forme de pièce de théâtre, et là on reconnaît bien les origines de Sorkin, hein, dramaturge à la base. Donc Isaac et Ismaël, c'est le titre de l'épisode. Alors ça peut paraître un petit peu ampoulé, il y a un discours sur les points communs entre les hommes, les différentes religions. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'épisode il est diffusé moins d'un mois en fait, hein, après les attentats, et que là bon, la télévision elle fait vraiment la preuve de sa capacité de réaction. Seule, je dirais, la presse hein, a cette capacité-là. Ni les livres, ni le cinéma ne peuvent intervenir aussi rapidement. Alors moi, personnellement, je pense que c'est un épisode bouleversant et surtout, il est utile. Hein. Et puis là, on voit la télévision jouer son fameux rôle d'éducation et quand la télévision, elle est comme ça, elle est vraiment fabuleuse.
Je m'appelle Martin Sheen et je suis l'un des acteurs de la série à la Maison Blanche. Pour ceux d'entre vous qui s'attendaient à voir débuter notre nouvelle saison, encore un peu de patience, elle sera bientôt là.
Nous sommes très pressés de vous faire découvrir la suite de nos aventures, mais ce soir nous voulions faire une petite pause, sortir un peu du contexte.
Vous remarquerez quelques changements dans l'épisode de ce soir. Par exemple, à la place du générique habituel de notre série, nous ferons apparaître sur votre écran les coordonnées de deux organismes au travers desquels vous pourrez venir en aide aux victimes de la tragédie.
Maintenant, tout le monde est convaincu qu'en les considérant comme les hommes et les femmes les plus courageux de New York, chaque New-Yorkais savait de quoi il parlait. Et nous sommes heureux de vous annoncer que les bénéfices de l'épisode que vous allez voir seront versés dans leur intégralité au fonds de soutien et de solidarité des pompiers secouristes de New York et au fonds de soutien aux veuves et enfants des policiers et des pompiers de la ville de New York.
Un petit geste de notre famille à leur famille. Pas d'affolement, d'accord? Nous sommes des gens du spectacle et nous nous remettrons rapidement à cultiver notre ego. Mais l'épisode de ce soir est exceptionnel. Il s'intitule Isaac et Ismaël. Nous vous conseillons de ne pas perdre votre temps à essayer de situer cet épisode dans la suite chronologique de la série. Il n'y est pas, c'est une aberration temporelle.
Au fil des semaines et des mois, bon nombre de productions américaines vont faire référence à l'événement du 11 septembre. Alors de Ally McBeal à Boston Public pour les séries de David E. Kelley, en passant par Law and Order, Urgence, FBI porté disparu et bien d'autres encore. Tous les auteurs qui font de la télé un outil de narration ancré dans le quotidien vont nous parler de la tragédie. Et en fait, chacun son style. Hein. Alors, il y aura de douces évocations, il y aura des personnages directement ou indirectement impliqués. Il y aura aussi des intrigues complètement... créé pour, musclé. Alors le 11 septembre se répand dans toute la production des mois qui vont suivre l'attentat.
Moi je me souviens par exemple d'un épisode d'une série à succès diffusée à l'époque, Ally McBeal, vous l'évoquiez, du créateur David E. Kelley, dont nous avons vu hein, dans un épisode précédent qu'il s'intéresse de près aux questions d'actualité. Nous avons vu aussi en quoi, tout en faisant évoluer ses personnages dans des univers parfois loufoques, il n'hésite pas, David E. Kelley, à soulever des questions brûlantes. Je pense par exemple à une autre série qu'il a produite à l'époque, Boston Public, série consacrée à la vie d'un lycée public de Boston. Lorsque le débat aux États-Unis autour des fanatiques religieux musulmans fait rage, il met en scène dans sa série un jeune lycéen qui se prend, on ne sait pourquoi, pour Jésus-Christ, ce qui crée autour de lui dans un lycée laïque tout un mouvement qui renvoie sérieusement aux Américains les questions de l'intolérance et du fanatisme.
Alors moi, je pense à deux séries qui ont particulièrement, mal encaissé la tragédie du 11 septembre. C'est deux séries de HBO, hein, Les Sopranos et puis Sex and the City. Bah, des séries qui accusent toutes deux déjà des retards dans leur planning de sortie. Elles seront quasiment décalées presque d'un an, hein, comme s'il y avait quelque chose d'indécent à faire de la télévision alors que votre univers... L'univers dans lequel se passe la série, mais l'univers aussi dans lequel travaillent tous les gens qui font ces séries, s'est écroulé. Et donc, quand les deux séries reprennent, bah déjà, les World Trade Center, elles ont disparu des génériques. Quand vous connaissez un générique plan par plan, l'air de rien, ça fait bizarre. Et puis, bon, que ce soit chez les mafieux des Sopranos, comme chez les New-Yorkaises branchées de Sex and the City, il y a quelque chose de cassé. Alors les allusions se feront timides dans la série de Darren Star, hein, puisque la vie et la comédie continuent. Dans Les Sopranos, en revanche, le thème du terrorisme deviendra un nouveau sujet d'inquiétude pour Tony Soprano, comme s'il n'était pas assez déprimé comme ça. Il ira même jusqu'à fournir finalement des informations au FBI, pas des informations forcément importantes, mais on voit que son statut d'Américain passe quasiment par-dessus son statut de mafieux. Et là, on voit aussi l'importance de l'écriture. Et David Chase veut certainement dire quelque chose à ce moment-là.
You got a sec? As I told you, my partner and I are with the Joint Terror Task Force now.
You're around Port Newark often enough. We're concerned about what might come through there from the Middle East.
Yeah, and,
Let's talk terror funding. Most of it comes about through a legal enterprise. Our pitch is this, and it's the same we gave to Christopher Moltisanti. Maybe never mentioned it. If you or any of your people ever heard of anything going down, Middle Easterners, Pakistanis, you'd be helping us a lot if you let us know.
I think there's a word for that.
Your daughter takes pre-med classes in New York. She uses the tunnels.
Après le 11 septembre 2001 et la politique menée par George Bush, le contexte va pousser les scénaristes dans des directions peu exploitées. Ce que l'on remarque par exemple, c'est la place importante qui va être accordée à une communauté jusqu'alors sous-représentée dans les fictions télévisées, les Américains de confession musulmane par exemple. Dans des séries policières, des musulmans vont faire l'objet d'erreurs judiciaires ou sont soupçonnés sans fondement, comme dans par exemple la série FBI portée disparue. Dans d'autres cas, les musulmans sont présentés comme les méchants terroristes. La famille turque de la saison 4 de 24 heures chrono en est un exemple.
Certaines séries ont parlé assez vite du 11 septembre, très, très vite après la catastrophe. Mais finalement, quand on regarde la production, on voit que très peu de nouvelles séries vont traiter des attentats du 11 septembre et de leurs conséquences dans leur argument principal. Alors, deux séries vont le faire, mais en 2004, donc on voit près de 3 ans après, donc preuve qu'il fallait quand même un peu de temps avant de remuer les souvenirs. Alors, il y a Sleeper Cell, série qui met en scène un agent du FBI qui possède cette particularité d'être lui-même musulman. Donc il y a une interaction entre sa foi et puis son job.
C'est une série diffusée sur le câble.
C'est une série diffusée sur Showtime. Il y a très peu d'épisodes. C'est absolument sublime. Faut regarder. Cet agent, Al-Saïd, il infiltre une cellule terroriste qui ambitionne d'organiser des attentats sur le sol américain. Des attentats d'une envergure au moins aussi forte que celle du 11 septembre, qui est une vraie tension. Et tout ça est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tout va très lentement, il n'y a pas de coup de théâtre spectaculaire, c'est un peu l'anti-24, et vraiment, jusqu'à la fin, on est mené par le bout du nez, et on se demande ce qui va se passer. L'autre série qui fonctionne aussi sur le souvenir du 11 septembre, c'est Rescue Me, qui elle aussi passe sur le câble, et là, elle met en scène un pompier de New York, qui ne cesse de voir en fait son cousin défunt, cousin qui est mort dans la catastrophe. Et donc, il y a une espèce de relecture de la vie aujourd'hui. Que vaut la vie? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue comme ça, après une telle catastrophe? Et là, on voit le rôle important pris par la télé, parce qu'il y a un certain devoir de mémoire que la télé endosse, et qu'à mon avis, le cinéma n'a finalement pas tant endossé que ça.
Ou beaucoup plus tard.
Ouais.
Vous parliez là de séries diffusées sur le câble, mais les networks aussi vont essayer de faire sortir comme ça des séries surfant entre guillemets sur la vague, mais avec beaucoup moins de succès ou du moins avec moins de finesse. Moi, je pense par exemple à l'insupportable série The Agency, qui en fait est un véritable outil de propagande pour la CIA, ou encore une série d'actions assez clichés, Threat Matrix, qui de toute façon sont des séries qui ne marcheront pas véritablement. Mais revenons un instant, Eric, peut-être sur 24 heures chrono, qui n'est pas une série qui va surfer uniquement sur la peur de l'attentat, mais va aussi s'inspirer des décisions politiques du président Bush. Et alors, ce qui serait intéressant de faire, alors avis aux universitaires, au moment où Bush s'apprête à quitter le pouvoir, la Maison Blanche, ce serait bien d'étudier l'ensemble des présidents qui se sont succédés dans 24 heures chrono pendant la période. Marjolaine Boutet nous livre justement sa vision de sérifile et d'historienne.
C'est vraiment très intéressant de voir l'évolution du président dans 24 heures chrono, puisque effectivement dans la Maison Blanche c'est toujours le même, alors que dans 24 heures chrono le président change régulièrement. Donc il y a quand même cette figure de David Palmer, qui est donc le candidat puis le président dans les premières saisons, qui est donc joué par Dennis Haysbert, qui est un acteur noir avec un charisme impressionnant, et qui lui incarne la figure du président rassurant. Je pense, c'est ce que j'ai écrit dans un article, d'une certaine façon, le président que les Américains auraient souhaité avoir au moment du 11 septembre, à la place de Bush, sans doute, pour beaucoup. C'est-à-dire un président charismatique, rassurant, qui sait prendre vite et bien les bonnes décisions pour sauver le pays et qui en même temps a un sens moral là aussi très affirmé. Donc ça, c'est ce personnage, qui fait penser aussi beaucoup à Kennedy, qui est ce président américain rêvé, idéalisé, le meilleur d'entre nous, qui va subir le même sort, ce qui contribue au mythe, évidemment, du président assassiné, Lincoln Kennedy. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans 24 heures chrono. À partir du moment où le président est président, il est plus partisan. Il est président de tous les Américains. Et en plus, comme dans 24 heures chrono, on est perpétuellement en crise, en situation de crise, les questions politiques, en tout cas dans les premières saisons, n'interviennent plus. Parce que c'est pas le cas dans la cinquième et la sixième, où là, on a une vraie réflexion sur qu'est-ce que doit être l'Amérique, sur, encore une fois, cette dualité entre liberté et sécurité, comment protéger les Américains sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Ensuite, il y a un deuxième président qui va faire plusieurs saisons, c'est le président Logan, et qui, lui, donc, est blanc, alors que Palmer était noir, et qui ressemble pour moi étrangement à Nixon, qui a vraiment ce côté grimaçant, inquiétant, à la Nixon, et qui est lui, pour le coup, un président corrompu et à la solde d'intérêts économiques plus forts que lui. Et je trouve que en période de guerre en Irak, de fin de mandat de Bush, etc., avoir ce type de discours dans une série aussi bushienne que 24 heures chrono, c'est pas anodin là aussi.
La politique américaine qui va découler du choc du 11 septembre, elle va aussi apparaître naturellement dans les séries télévisées. Alors on va voir poindre des réflexions géopolitiques dans des séries diverses et variées. Alors dans le cas de The West Wing, là on est dans les coulisses de la Maison Blanche, ça paraît assez naturel. Mais les héros de Six Feet Under, Urgence, Les Sopranos ou The Wire vont aussi s'y mettre. Alors on est d'accord, ce ne sera jamais le thème principal de ces séries, ni même forcément d'un épisode. C'est plus une idée, une réflexion. Je pense par exemple à The Wire, où à un moment, un des héros va voir un de ses copains du FBI pour lui demander du matériel très perfectionné. Et l'agent du FBI lui dit, de toute façon, là, tout déménage, on n'a plus d'argent, tout va à l'antiterrorisme, on luttera plus contre la drogue. Là, David Simon, le créateur de The Wire, il dit quelque chose sur la réalité du pouvoir aux États-Unis qui se tourne totalement vers le terrorisme et qui délaisse, tous les maux intérieurs.
Il y a une série récente, Brothers and Sisters, dans laquelle c'est carrément la famille qui va se diviser sur la question de l'intervention militaire en Afghanistan puis en Irak. Et quand l'un des leurs part sur le front et en revient un petit peu traumatisé, ça crée d'énormes tensions.
La première fois que moi j'ai vu le 11 septembre à la télévision, c'est dans une série familiale que j'aime beaucoup qui s'appelle Brothers and Sisters, où on voit une famille américaine en Californie regarder le 11 septembre à la télévision. Donc l'épisode date de 2006 ou 2007 peut-être. C'est la première fois qu'on revit l'événement à la télévision. Et là aussi, la question de qu'est-ce qu'on va faire là-bas, pourquoi est-ce qu'on y va, est de nouveau posée, ce qui n'avait plus été le cas depuis longtemps, depuis les années 80 et la guerre du Vietnam.
Alors Eric, l'extrait que nous venons d'écouter, c'est quand même une série assez culottée.
Oui, il s'agit de Over There, série qui passe sur FX, sur le câble américain. Alors, les Américains et leur série poursuivent leur travail d'introspection. Finalement, après la menace terroriste et puis le travail parfois vain, parfois illégal, même des forces de l'ordre américaines, mais là on parle du territoire américain, les séries elles abordent aussi de front la question du conflit en Irak. Est-ce que c'est une bonne guerre? Gagnons-nous cette guerre? Que faisons-nous là-bas? Alors Over There répond partiellement, mais possède au moins le courage de traiter la question avec un timing relativement osé, hein, puisque les troupes sont encore là-bas et que la série tape sur justement ce système. L'autre grand choc sur la guerre en Irak, c'est Generation Kill. Hein, ça passe en ce moment sur HBO. Et c'est vrai que c'est le quotidien d'une unité de Marines. C'est tiré du roman éponyme de Evan Wright, qui a été un best-seller aux États-Unis. C'est un journaliste qui finalement raconte un petit peu le quotidien des boys en Irak. Et c'est assez gratiné. Le scénario a été confié à David Simon et Ed Burns. On les connaît pour avoir été les créateurs, producteurs exécutifs de The Wire, qui est peut-être une des séries les plus fidèles par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Donc on n'a pas encore vu la série, mais connaissant un petit peu l'œuvre de David Simon, je pense que la série risque de tirer du côté du brûlot.
Spent $500 of our own money just fixing up the Humvee. We painted it ourselves. So yeah, Holmes, we pimping.
C'est le même problème, si vous voulez, qu'on a eu pour la guerre du Vietnam et pour montrer la guerre du Vietnam dans une fiction télévisée. Dans la mesure où on voit des images de la guerre aux informations sur CNN quasiment en permanence, les gens ont pas envie de revoir ça directement dans une fiction. Over There, c'est une série remarquable à des tas de points de vue, qui a un discours vraiment critique vis-à-vis de l'armée en tant qu'institution. Et c'est ce qu'on a retrouvé à l'été 2007 dans Army Wives. Donc, c'est nouveau dans les séries de critiquer l'armée en tant qu'institution. Mais je pense encore une fois que le public, l'Amérique est en guerre, elle n'a pas envie de voir une guerre à la télévision. Mais c'était le même problème pour les films qui traitaient directement de la guerre du Vietnam pendant que la guerre du Vietnam arrivait, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les films de guerre sont arrivés après. C'est une fois qu'on est dans le souvenir qu'on peut jouer à se faire peur, mais quand on est en pleine guerre, le public n'est pas prêt, n'a pas envie de revoir cette guerre en plus en fiction. Dans les années 70, c'est le cinéma qui a commencé à parler de la guerre du Vietnam et voilà. Là, aujourd'hui, ce sont les séries qui ont vraiment la main dans la mémoire de cette guerre et dans le traitement de cette guerre. Parce que il y a notamment un épisode de Law and Order, c'est l'avant-dernier de la 17e saison, donc qui est passé en mai 2007 aux États-Unis, qui critique de façon frontale et violente le manque de moyens qui est donné aux hôpitaux militaires qui sont censés traiter les vétérans de la guerre en Irak et notamment les traiter psychologiquement, traiter leur traumatisme. Or, les Américains, depuis la guerre du Vietnam, savent comment traiter le syndrome post-traumatique. Donc, c'est pas une question de manque de savoir-faire, c'est une question de manque de moyens et qui est clairement abordée dans beaucoup de séries depuis. Je dirais vraiment, ça devient une tendance lourde depuis 2007.
Eric, nous avons abordé trop rapidement dans cet épisode une des plus grandes séries télévisées des années 2000, diffusée aux États-Unis avant, pendant et après, hein, ce fameux choc du 11 septembre. Cette série que tout étudiant en sciences politiques devrait étudier un jour, c'est bien The West Wing, à la Maison Blanche en français, série majeure sur les coulisses du pouvoir, à laquelle nous consacrerons quasi l'intégralité de notre prochain épisode.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes. Prise de son, Pierre Mine. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Une émission de Benoît Lagan et Eric Vera. Retrouvez plus d'informations sur franceculture.com à la page de notre émission et dans la revue Générique, le magazine de la culture série. À demain. Bonne nuit. Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes annonces.